La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier.
C'est 23.
Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween.
Alors, premier sujet, Pierre-Yves, on va surveiller cette semaine la décision de la Banque du Canada concernant le taux directeur et donc l'impact sur les taux d'intérêt payés par nous.
Effectivement, et il y a quelques situations à souligner, parce que mercredi, il se peut que les taux d'intérêt augmentent encore, hein, que le taux directeur soit augmenté, on ne sait pas de combien, mais un autre tour de vis, c'est possible. Mais ce qui arrive, c'est qu'on a déjà eu 8 hausses assez substantielles dans un court laps de temps. Si on avait une autre hausse, on serait rendu à notre 9e hausse en à peu près 15 mois. C'est quand même beaucoup. Et il y a des scénarios auxquels on ne pense pas. Parce que il y a des vases qui sont non communicants. Je te donne certains exemples. Le premier exemple, c'est Nathalie. Nathalie paie une pension alimentaire pour ses enfants. Mais Nathalie, elle avait signé son taux variable. Pendant ce temps-là, son ex qui reçoit la pension alimentaire pour les enfants, lui avait signé une hypothèque taux fixe lors du divorce. Alors, regarde la situation présente. Nathalie va voir son banquier. Je veux renouveler mon hypothèque. Son banquier dit, excuse Nathalie, mais là, avec le prix de ta maison, les taux hypothécaires, ça fonctionne plus. Mais là, Nathalie doit encore payer sa pension alimentaire à son ex net d'impôts. Son ex de l'autre bord, lui, avait pris un taux fixe 7 ans. Et reçoit une pension alimentaire nette d'impôts. Et la pension alimentaire n'est évidemment pas révisée en fonction des taux d'intérêt. Et donc, on se retrouve dans une situation un peu hilarante et pas drôle où Nathalie, payeuse de pension alimentaire car plus riche en revenus, perd la capacité d'avoir sa maison, alors que son ex, anecdotiquement, garde sa maison et reçoit une pension nette d'impôts qui n'est pas variable en fonction des taux directeurs. Et donc, c'est une situation qui montre où on est en train de créer avec ça, cette hausse-là, certaines variances. Je te donne un autre exemple. Une première maison, tu sais, t'as passé de justesse, tu sais, tu t'es acheté une super belle maison, je sais pas moi, dans mon banlieue, Rosemère. Il y a quelques années, à un prix de justesse pour ton couple, ça passait. Mais là, arrive le renouvellement hypothécaire. Là, tu as 4,5% plus cher, dépendant de ton dossier. Un des deux partenaires a baissé sa carrière un peu. L'autre a eu des malchances. Peu importe. En gros, tu passes plus pour le renouvellement hypothécaire de ta propre maison.
Mais quand tu dis tu passes plus, là, ça veut dire quoi? Faut que tu mettes ta maison en vente?
Ou que tu la donnes à la banque, dépendant de la valeur par rapport à l'emprunt. Mais
la banque doit, comment je dirais ça...
Elle n'est pas obligée de te prêter si tu passes plus.
Non, mais elle n'a peut-être pas le goût d'avoir un parc immobilier à gérer non plus.
Non, mais si ton client ne passe plus le stress test, hein, le test de capacité, là, et que ton client n'a plus les ratios ne fonctionnent plus, mais la banque n'est pas obligée de te prêter. Puis si tu t'en vas chez d'autres emprunteurs, ça ne passera plus non plus. Et donc, tu te frappes à la dure réalité que tu pouvais avoir une maison avant, mais peut-être plus maintenant. Je te donne un autre exemple. Te relocaliser. Là, tu étais un couple, tu as vendu ta maison en région parce que finalement, tu as accepté la fameuse job à Montréal que tu voulais avoir depuis longtemps ou vice-versa. Et là, tu vends ta maison que tu avais payé 350 000 ou tu revends 400, mettons. Puis là, tu arrives dans un nouveau marché où non seulement la maison est vraiment plus chère pour moins, mais que les taux sont vraiment plus élevés. Donc, ta capacité de vie a chuté. Et là, on parle du plus gros enjeu, les nouveaux séparés. Tu avais une maison que tu avais payé 400 000 à deux. Et là, tu te dis, garde la maison, je vais aller en acheter une autre. Mais là, les deux se rendent compte que non seulement avoir deux maisons, c'est plus cher, mais les maisons sont plus chères et les taux d'intérêt sont plus chers. Et donc, la famille explosée avec les taux actuels ne peut plus se reloger dans deux maisons. Donc, les hausses successives... Ça crée ce genre de scénario-là. J'ajoute un autre scénario, c'est les écarts entre les familles nucléaires et les familles séparées. Entre les jeunes qui ont des gros paiements hypothécaires puis les plus âgés que le paiement hypothécaire est rendu des virgules. Donc, on crée non seulement des problèmes de paiement mensuel, mais on crée aussi des écarts de richesse qui sont pas apparents.
Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves McSween.
Mais j'ai une question à te poser.
Oui.
Est-ce que, puis c'est vraiment une question là, de néophyte, là, est-ce que la banque a pas intérêt à faire en sorte que le client par exemple, maintienne son paiement, mais que la partie de remboursement de capital baisse. Autrement dit, j'étire dans le temps au maximum l'hypothèque pour être capable, finalement, de pas perdre la maison.
Ah, refinancer la maison sur 25 ans après, ça se fait. Il faut qu'il y ait de la place, par exemple.
Ouais.
Parce que c'est pas tout le monde qui avait beaucoup de capital remboursé. Parce que, prends des gens qui ont pris variable depuis 2 ans, mettons. Puis là, il avait pris variable. Puis là, finalement, le remboursement de capital n'était plus rendu vraiment gros parce que les taux d'intérêt ont tellement monté. Puis il avait voulu un paiement justement fixe, tu sais, un paiement qui ne montait pas. Donc, le capital baissait dans le remboursement. Et là, tu renouvelles. Puis là, il faut que tu refasses un capital en fonction de la réalité. Puis là, ça marche plus. Mais t'as raison. Avant de vendre une maison puis paniquer, là, tu peux étirer ton prêt hypothécaire si tu peux. Tu peux réévaluer ta maison à la hausse pour aller refinancer sur une plus longue période ou aller chercher du capital pour payer tout ça. Tu peux aussi avoir une stratégie de prêteur, comment on pourrait dire ça, alternatif, ce qui est quand même risqué parce qu'il faut que ce soit court terme.
Ouais.
Il y a des parents, des familles qui peuvent embarquer, il y a des choix qui peuvent se faire, il y a des autos qui peuvent se vendre, des bateaux.
C'est incroyable à quel point il y a des gens qui... durant la pandémie, se sont endettés solides, là. Écoute, j'ai un auditeur qui m'a écrit, puis il me parle de son fils, qui a pas 30 ans, là.
Oui.
Il s'est acheté une maison. Ça, il l'avait déjà, là, puis il avait son paiement hypothécaire, mais il est frappé, comme tout le monde, par l'augmentation des taux d'intérêt. Pendant la pandémie, il est allé chercher sur sa marge de crédit un montant pour faire des travaux de rénovation.
Oui.
En plus de ça, il s'est acheté un bateau.
Oui, ça, le bateau, ça...
OK, mais tu comprends, là, tout ça est à crédit, là. Et là, tout ça fait en sorte que, disons que les deux mains lui serrent le cou, là.
Mais tu sais, une maison, je me dis toujours, t'achètes un actif qui se revend, il y a une demande. Un bateau, c'est un gros luxe. Tu sais, un bateau au Québec, c'est pas 12 mois par année. On n'est pas en Californie, là, tu vas pas te faire bronzer à l'année. T'es au Québec, le beau temps de bateau est, disons, juin, juillet, août. Donc, c'est 3 mois dans l'année. Là, tu vois des bateaux sortir, 90, 100, 150 000. Tu dis, hey, faut être riche, pas à peu près, pour te dire dans ton cerveau que net d'impôts, parce que là, une fois que t'es vraiment un payeur d'impôts régulier, que tu peux te payer un bateau de 110 000 net d'impôts plus taxes, puis tout va bien. En tout cas, tu sais, t'hésites à mettre l'air climatisé dans ta voiture, mais le bateau, pas de problème.
Alors, on va regarder ça mercredi. Oui. Ce sera la décision de suivre. Banque du Canada. Absolument. Salut. Merci, Pierre-Yves.
C'est 23.